priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Les découvertes continuelles dans le domaine de la génétique ont abouti à une multiplication des tests génétiques. Des tests qui, dans le domaine de la santé, permettent de confirmer un diagnostic ou de renseigner sur les risques de développer une maladie. Ces tests sont également au cœur de l'actualité puisque le Sénat français examine en ce moment le projet de loi sur l'immigration qui prévoit, entre autres, d'imposer des tests génétiques aux étrangers candidats au regroupement familial. Le Conseil de l'Europe, le ministère de la Santé et l'Agence de la biomédecine ont organisé une rencontre sur la question des tests génétiques en accès libre. Quel enjeu pour le patient et le citoyen? Chacun de nous se verra-t-il bientôt proposer les moyens d'établir lui-même ses prédispositions à un grand nombre de maladies? Comment assurer une compréhension correcte des résultats des tests? Comment garantir la confidentialité des données obtenues? Un test génétique sera-t-il un jour indispensable pour tout traitement médical? Alors nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec mes invités. Karine Cambi, directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Laurence Loff, chef de la division de bioéthique du Conseil de l'Europe, et le professeur Marc Delpech, généticien, chef du service de biochimie et génétique moléculaire de l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour à tous les trois et merci d'être ici au lendemain de cette rencontre où vous avez eu justement des débats sur ces tests génétiques en accès libre. Professeur Delpech, on va commencer par le début. Un test génétique, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on cherche?
Alors, un test génétique, c'est un test qui est un petit peu complexe à réaliser. C'est un test qui analyse une molécule particulière que tout le monde connaît maintenant, qui est la molécule d'ADN. Et la molécule d'ADN contient toute l'information dont a besoin l'organisme et donc chacune de ses cellules. Donc quand une cellule a besoin d'une information pour fabriquer quoi que ce soit, elle va chercher le plan dans la molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN, malheureusement, subit à tout moment des altérations, soit lorsque les cellules se divisent, parce qu'il faut recopier, on fait des fautes quand on recopie, soit du fait des rayonnements cosmiques et autres. Donc il y a des variations de séquences. Et quand vous avez un plan et qu'on modifie le plan, eh bien, il est évident que ce qui est fabriqué n'est plus pareil. Le plus souvent, c'est pas grave et c'est ça qui fait qu'on est tous différents parce qu'on a une information très légèrement différente. On n'a pas tout à fait les mêmes séquences dans nos gènes. Mais malheureusement, de temps en temps, il y a une altération qui fait que ce qui va être fabriqué fonctionnera plus. Et donc, on aura une maladie.
Et c'est ça qu'on cherche dans un test?
Et c'est ça qu'on cherche. Alors, c'est extrêmement difficile parce que la molécule d'ADN, c'est 3 milliards d'informations dans chaque cellule. Donc, aller analyser trouver une faute d'orthographe dans 3 milliards de paires de bases, c'est exactement comme retrouver une faute d'orthographe dans 6000 volumes de la Pléiade. Donc c'est pas évident. Donc le test sera de ce fait forcément ciblé sur une problématique. On va diagnostiquer quelque chose. Il faut savoir par avance ce qu'on recherche. Donc par exemple, quand dans une famille il y a une maladie héréditaire qui sévit comme une myopathie ou une mucoviscidose, eh bien certains membres de la famille souhaitent, lorsqu'ils vont avoir des enfants, que ces enfants soient sains et pas atteints, et on pourra éventuellement leur proposer un diagnostic prénatal. Il faudra au préalable, d'abord savoir s'ils en ont besoin ou pas, parce qu'ils n'ont pas forcément hérité de la mutation. Et s'ils ont hérité de la mutation, après, on ira rechercher chez le fœtus s'ils ont l'altération ou pas. Donc, alors, ça a été la première application.
Application, ça a été sur des maladies génétiques rares, ce qu'on peut dire, c'est ça?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on cherche d'autre maintenant, en ce moment,
dans alors, ces tests génétiques? Alors, le marché, entre guillemets, reste très largement les maladies héréditaires rares. Il y a peu de circonstances encore aujourd'hui dans le cadre de la médecine. Je ne parle pas dans tous les autres cadres comme celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Dans le cadre de la médecine, dans la majorité des cas, on s'intéresse surtout à des maladies héréditaires, dont on va non pas faire le diagnostic, parce que pour faire un diagnostic de myopathie, il suffit de la clinique et de faire le diagnostic. Donc, on ne les utilisera que dans quelques circonstances où soit les signes cliniques ne permettent pas de faire le diagnostic et où là, l'analyse du gène va montrer qu'effectivement, le tableau observé correspond bien à la maladie à laquelle on avait pensé et que le gène correspondant...
Une confirmation de diagnostic, en fait.
Et confirmation de diagnostic, je pourrais vous donner un exemple.
Oui, extrêmement intéressant.
Mais ça, c'est beaucoup plus récent. C'est-à-dire que c'est apparu à peu près 10 ans après les premiers tests qui ont exclusivement concerné les maladies héréditaires rares. Il y a un exemple particulièrement intéressant qui est celui d'une maladie que les Français connaissent pas, qui s'appelle la fièvre méditerranéenne familiale, qui est très très rare en France, parce que comme son nom l'indique, elle sévit dans le bassin méditerranéen. Mais chez les les Arméniens, il y a énormément de gens atteints, et chez les Juifs séfarades aussi, quand le gène a été trouvé, ça fait la une du journal de 20h à Tel Aviv. Et donc, dans cette maladie, les signes cliniques, c'est de la fièvre, mal au ventre, mal aux articulations. Donc, qui n'a pas eu ça? Et pourtant, c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse. Les gens sont ont des arrêts de travail à répétition parce que c'est intenable et ça fait horriblement mal. Par hasard, de manière empirique, on a découvert un traitement qui est la colchicine, tout simplement parce que un médecin avait vu que quand il donnait de la colchicine pour traiter la goutte de ses patients, ils n'avaient plus de crise. Donc, le fait de pouvoir faire le diagnostic va déjà permettre de traiter les gens et de faire
qu'ils et pour les gens de mettre un nom sur une maladie, sur quelque chose qu'ils ressentent.
Et alors, ce qui est fondamental pour eux, ils savent ce qu'ils ont, alors que jusque-là, ils ne savaient pas.
Une deuxième chose, oui. C'est que ça permet, est-ce que ça permet, ces tests génétiques aussi, de, je dirais entre guillemets, de prédire des maladies, de dire, bah, vous risquez d'avoir une maladie cardiovasculaire, par
oui,
exemple?
Tout à fait. Mais je vais y revenir à la fin de mon exemple, parce que ça va vous montrer l'aspect négatif du test génétique, qui est qu'il n'y a pas de résultat définitif en général. On reste de temps en temps avec un point d'interrogation. Donc l'autre avantage du test, c'est que chez ces malades, entre 5 et 20% suivant leur origine, développent une autre maladie ultérieurement qui est due à l'inflammation de leur maladie, qui s'appelle l'amylose. L'amylose, c'est du dépôt de protéines dans les tissus, et quand les protéines se déposent, elles détruisent les tissus. Et l'amylose est mortelle, en gros, dans les 5 années qui suivent le diagnostic. Or, le traitement à la colchicine empêche à 100% l'amylose. Donc, il est absolument fondamental de faire le diagnostic. Et aujourd'hui, cette maladie qui est mal connue était sous-diagnostiquée, ou au contraire, dans les familles où la maladie existe, c'est surdiagnostiqué. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a mal au ventre, il a la maladie, il est à la colchicine à vie. Donc on a un test qui va permettre de détecter très tôt et donc de traiter pour empêcher les effets secondaires. Le problème, et c'est valable pour la plupart des tests génétiques, c'est que la réponse va être soit certainement il est atteint pour une myopathie, quand on a une mutation on est atteint. Ça peut être aussi, il va probablement être atteint parce que pour certaines maladies, on dit que la pénétrance n'est pas totale, on peut avoir la mutation et puis ne pas être malade parce que d'autres facteurs vont faire que ça va compenser, contrebalancer et qu'on devrait être malade mais on ne l'est pas. Il y a même des exemples de mucoviscidose où un champion sportif a une mutation qui rend tous les autres malades et lui ne l'est pas. Donc il n'y a pas une certitude absolue, même s'il y a une très forte probabilité. Mais à l'inverse, ne pas trouver une mutation ne veut rien dire. Parce que, comme je vous l'ai dit, les tests sont extrêmement complexes. On ne peut pas analyser la totalité de la molécule d'ADN. On analyse que le gène, mais il y a tout ce qui est autour qui va être important. Et donc, à chaque fois, la réponse est oui, ou très vraisemblablement, ou bien peut-être on ne sait pas.
Et c'est ça qui est particulièrement difficile.
C'est extrêmement difficile à expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on a fait un test que c'est en blanc ou noir. C'est presque une probabilité qu'on va rendre.
Karine Cambi, vous êtes directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Quelle est la loi en France? Que justement, on comprend bien que ça peut poser plein de problèmes. C'est une grande avancée hein, scientifique, ces tests génétiques, mais ça peut poser des problèmes. Quelle est la loi en France?
Comme Marc Delpech vient d'expliquer, c'est extrêmement compliqué. L'analyse du résultat d'un test génétique, ça demande vraiment un accompagnement médical. Donc la loi en France, c'est très simple. C'est d'abord que ces tests génétiques ne peuvent être faits qu'à des fins médicales ou alors il faut qu'ils soient ordonnés par le juge en cas d'une procédure judiciaire. Quand ils sont faits à des fins médicales, il faut préalablement que le médecin qui les prescrit à son patient d'abord soit un médecin spécialiste qui soit capable d'expliquer à cette personne tous les tenants et aboutissants et de lui faire comprendre effectivement les limites du résultat et les limites du test. Et puis, bien entendu, il faut que cette personne donne un consentement express, écrit, pour que ce test soit réalisé. Et les tests ne peuvent être réalisés que par des médecins qui sont agréés par l'Agence de la biomédecine, d'ailleurs. Enfin, prochainement, ce sera le cas, en tout cas. Pour qu'on soit certain à la fois que les tests, la qualité des tests est parfaite, et d'autre part, que tout l'entourage, je dirais, l'entourage psychologique, l'explication du patient, la prise en compte de sa généalogie, puisqu'on est souvent dans le cas de maladies héréditaires, soit très bien fait.
Alors, aujourd'hui, dans cette émission, on est bien d'accord qu'on parle des tests à des fins médicales, mais oui. Tout de même, en ce moment, au Sénat, est discuté un projet de loi sur l'immigration, où des tests ADN pourraient être demandés dans le cadre du regroupement familial. Ça pose un problème, apparemment, par rapport à la loi française, à ce qui a été établi pour l'instant.
Tout à fait. Ce serait effectivement conçu comme une dérogation, en quelque sorte, une nouvelle possibilité donnée en dehors de la loi de bioéthique qui, elle, limite strictement le fait de faire ces tests génétiques à des fins médicales pour des personnes ou dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Laurence Wolff, pourquoi le Conseil de l'Europe a organisé un séminaire sur cette question des tests génétiques? Est-ce que c'est parce qu'au sein de l'Europe, on a finalement des lois assez différentes?
Alors, il y a deux questions en une dans votre question. Je pense que le point de départ, c'est de souhaiter promouvoir en fait un débat autour de ces questions qui sont des questions qui nous concernent tous. Débat avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris les autorités réglementaires ou qui sont directement impliquées dans la réglementation, en s'appuyant pour cela sur des principes fondamentaux qui ont fait l'objet d'un consensus au niveau européen. Alors, le Conseil de l'Europe mène depuis plus de 15 ans maintenant une réflexion approfondie sur les progrès des sciences et de la médecine, dans le but de trouver cet équilibre nécessaire entre le progrès médical, et on voit bien, professeur Delpech l'a évoqué, tous les bénéfices qu'on peut tirer de ces avancées dans la génétique, cet équilibre entre le progrès médical et la protection des droits fondamentaux de la personne. Donc, cette réflexion a abouti à un certain nombre d'instruments juridiques.
Et de recommandations?
Oui, enfin, d'instruments juridiques, y compris contraignants au niveau international, et notamment un texte de référence dans ce domaine, qui est la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui définit un cadre de protection des droits de l'homme face à des applications de la médecine, sur la base duquel ont été développés d'autres instruments juridiques dans des domaines spécifiques, le clonage, la transplantation, la recherche biomédicale, et tout dernièrement, puisqu'on parle du mois de juin de cette année, a été finalisé un nouvel instrument juridique concernant les tests génétiques à des fins médicales. Donc c'est dans la prolongation de cette réflexion que s'inscrit ce séminaire, avec une volonté de promouvoir ce débat au niveau national et international.
Priorité santé. Claire Hédon.
Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux tests génétiques. Professeur Delpech, comment se déroule un test génétique suivant ce qui se passe en France, hein? On est bien dans ce cas-là.
Alors, on ne peut pas isoler l'acte de laboratoire. Ça commence d'abord par une consultation médicale et il faut déterminer ce que va être ce test. Parce que quand on a une maladie donnée, le plus souvent, il peut y avoir plusieurs gènes qui sont impliqués. Et donc, il faut déterminer d'abord si le test génétique a un intérêt ou pas et s'il est faisable, s'il existe. Et il faut que le patient soit aussi informé de toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que s'il s'agit de maladies héréditaires le plus souvent, et donc ça a des conséquences pour toute sa famille.
C'est ça risque de lui annoncer une maladie grave, en gros.
Une maladie grave, et il peut y avoir des effets secondaires sur toute la famille, ça ne se limite pas aux patients.
Donc, alors après ça, on prélève quoi?
Alors, le plus souvent, ce qu'on prélève, c'est du sang, donc quelques millilitres de sang, une prise de sang tout à fait classique, et à ce moment-là, le prélèvement va au laboratoire. Fort heureusement, le sang est quelque chose d'assez stable. Donc il peut voyager parce que les tests sont très complexes et il n'y a que quelques laboratoires qui sont capables de les faire. Il y a plus de 6000 maladies héréditaires. Aujourd'hui, il y a 2000 gènes trouvés, donc théoriquement, on pourrait faire 2000 types de diagnostics. En fait, on en fait moins de 1000 parce qu'on n'a pas encore développé tous les tests nécessaires. Et donc, ce prélèvement va voyager et il va être analysé, c'est-à-dire qu'on va extraire l'ADN. Et par des techniques un petit peu complexes, on va lire l'information de manière à voir si elle est altérée ou pas, rendre au médecin l'information, parce que contrairement à tous les autres examens
qu'on nous envoie à domicile en général,
qu'on vous envoie à domicile ou que vous pouvez réclamer, le patient ne peut pas avoir le résultat, le laboratoire n'a pas le droit de le donner. La loi précise de façon parfaite qu'il doit être remis exclusivement au médecin prescripteur. Et là, le médecin devra expliquer les choses, parce que quand on lit ce qui est donné au médecin, c'est pas un chiffre qui est donné, c'est une lettre qu'on envoie en expliquant ce qu'on a trouvé, et la signification.
Donc vous passez après du temps avec le patient à lui expliquer ce qu'il y a dans ses résultats.
C'est pas le laboratoire qui passe du temps, c'est un médecin spécialiste dont c'est le métier d'expliquer aux gens ce que veut dire le résultat, parce que beaucoup de variations de séquences, en fait, sont tout à fait normales et correspondent à notre diversité, et ça, il faut l'expliquer.
Donc, Karine Cambi, alors, on comprend bien, la loi française me paraît plutôt bien faite, hein, elle encadre bien les choses, le seul problème, c'est qu'on peut se procurer des tests un peu n'importe où dans le monde, entre autres via Internet.
Comme le disait Marc Delpech, effectivement, le sang voyage, mais vous savez qu'on peut aussi faire des tests génétiques à partir d'un peu de salive, etc. Donc, maintenant, on trouve sur Internet une offre importante dans des laboratoires qui sont proches de la France. D'ailleurs, en Espagne, il y a des laboratoires qui offrent des batteries de tests extrêmement complètes et donc qui incitent les gens, ça devient une sorte de business, à se détecter des risques pour des maladies cardiovasculaires, pour des cancers, le cancer du sein, qui est quand même une pathologie grave et que beaucoup de femmes malheureusement connaissent. Donc les gens peuvent être tentés d'aller sur Internet.
Alors,
pour savoir.
Alors pourquoi vous êtes contre ça?
Alors pourquoi on est contre? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que l'accompagnement médical dont parlait Marie Delpech à l'instant, dans ce cas-là, n'existe pas. C'est-à-dire que le patient va se retrouver tout seul face à un laboratoire. Le passage par le médecin spécialiste, hein, j'insiste bien là-dessus, est complètement évité. Et ça, c'est catastrophique parce que en fait, ces résultats sont complexes. Ces résultats sont...
Le patient risque de mal interpréter.
Oui, ça peut générer une angoisse très importante. En plus, il faut bien dire qu'il y a des risques de confidentialité. Sur la confidentialité, elle n'est pas forcément respectée. Et puis, dans certains laboratoires, on n'est pas non plus toujours sûr de la qualité
du test.
Et donc, il peut y avoir des erreurs. Et ça, les médecins le savent. Ils sont capables d'expliquer à leurs patients. Alors que quand vous êtes tout seul face à cette information, à part être pris par une anxiété terrible, eh ben, vous ne pouvez rien en faire. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Puis, il faut bien voir qu'il y a des aspects commerciaux. Hein. C'est quand même des tests qui sont chers
Et ça veut dire que quoi maintenant? Par exemple, il vous faut, vous, agence de biomédecine, ou je dirais au gouvernement, convaincre les autres pays européens d'adopter des lois semblables à ce qu'il y a en France?
Je pense que de ce point de vue, évidemment, le Conseil de l'Europe joue un rôle extrêmement important. Le protocole additionnel que Laurence Elwolf a évoqué tout à l'heure joue évidemment un rôle fondamental. Il y a aussi un rôle d'information de la population, d'expliquer aux gens pourquoi c'est pas pour, je dirais, être répressif, pour leur interdire l'accès, c'est tout simplement parce que sans explication médicale, sans accompagnement médical, finalement, ces tests ne servent à rien.
C'est ça. Laurence Wolf, c'est une partie de votre travail maintenant, justement, c'est quoi? C'est d'essayer d'harmoniser, c'est d'essayer de faire comprendre à des pays, par exemple, comme l'Espagne, que les tests en accès libre, c'est pas forcément une bonne idée?
Alors, la question des tests en accès direct, effectivement, les lois n'ont pas un pouvoir d'extraterritorialité, ne s'appliquent pas d'un pays à l'autre. Alors, l'objectif de ce consensus sur des principes fondamentaux au niveau européen, c'est d'arriver à définir des dispositions qui vont protéger les personnes, quels que soient les pays. L'offre d'Internet, on parle de pays européens pour l'Espagne, mais 80% vient des États-Unis en réalité. Donc je pense que, et c'est un point qui a été souligné hier dans le séminaire, il y a un travail aussi d'information et d'éducation particulièrement important à mener. C'est aussi quelque chose qui est, je dirais, dans les missions du Conseil de l'Europe, de promouvoir ce débat, de sensibiliser en joignant nos efforts avec les autorités nationales pour promouvoir ces principes et faire comprendre aux gens qu'il y a un encadrement nécessaire pour leur protection individuelle.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important, parce que dans la loi française, il y a un point extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas faire des discriminations, par exemple dans le travail ou dans l'accès aux assurances, en fonction des résultats d'un test génétique. Or, on peut, avec cette offre sur Internet, être tenté de contourner la loi, puisque finalement, la prescription, il n'y a pas de prescription par un médecin, les résultats sont mis directement à la disposition.
Vous voulez dire que des entreprises pourraient demander à leurs salariés
Des assurances. Alors bon, en France, c'est interdit, donc j'espère qu'elles ne le feront pas, et je pense qu'elles ne le feront pas. Mais en tout cas, ça induit un risque supplémentaire de banalisation, finalement, de ces tests génétiques et d'utilisation à des fins discriminantes. Or, on sait déjà que l'accès à l'assurance est difficile pour les gens qui ont des problèmes de santé.
Alors, avec ces tests génétiques,
Un dernier
mot, professeur Delpech, qu'il nous reste vraiment quelques secondes pour terminer cette émission. Vous déconseillez formellement d'aller sur Internet faire ces tests.
Ah oui, complètement.
Vous êtes vraiment très ferme là-dessus.
En plus de ça, on ne sait même pas où va aller l'examen. En général, c'est sous-traité entre laboratoires. Et donc, pour
ne pas faire
raisons,
ça, ne
ça
pas essayer de faire
sens.
Ça. D'accord. Professeur Delpech, Karine Cambier, Laurence Wolf, merci. Au revoir à tous et à demain.